Bonjour, bienvenue sur Bac FM 106.1. Vous êtes en compagnie de François et de Clément, respectivement professeurs à Jules et à Raoul, pour une émission consacrée à la philosophie et plus précisément à la préparation de l'épreuve de philosophie du baccalauréat qui approche. Cette épreuve vous laisse le choix entre dissertation, explication, commentaire de texte, et c'est une explication, commentaire de texte que nous vous proposons aujourd'hui. Mais bon, baccalauréat ou pas, nous invitons tout le monde à philosopher sur l'art à partir d'un texte du philosophe Hegel, tiré de son esthétique. Alors François, Hegel est un philosophe célèbre, qu'il a la réputation d'être difficile. Est-ce que tu peux, avant qu'on en vienne au texte, nous dire un petit peu en deux mots qui était Hegel et ce qu'il a entrepris de penser?
Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Hegel, en quelques mots, c'est un philosophe du 19e siècle, du début du 19e siècle. Il meurt en 1832. Hein. Et généralement, lorsqu'on parle de Hegel, on fait référence à deux idées fondamentales. D'abord, la notion de dialectique, dont on va avoir ici une approche. Hein. Et la notion de système, que Hegel nomme l'encyclopédie des sciences philosophiques. Qu'est-ce qu'il entend par là? Il entend l'idée qu'on peut penser l'unité, hein, des savoirs et des pratiques humaines d'un point de vue philosophique. Alors au sein de ce système, on trouve ce qu'on appelle une esthétique. Et on peut dire que c'est le premier philosophe à faire une esthétique, alors non pas au sens, hein, d'une théorie du beau, d'une philosophie du jugement esthétique, comme on dit. Il y a quand même un grand prédécesseur, c'est Kant, hein, et d'autres aussi, hein, Baumgarten et d'autres, mais au sens d'une philosophie de l'art. L'esthétique hegelienne, c'est une philosophie de l'art où on essaye de penser le concept d'art et l'histoire de l'art, hein, d'un point de vue philosophique. Et donc, ainsi, il pense un déroulement logique de l'histoire de l'art avec plusieurs étapes. Ce qu'il appelle rapidement l'art symbolique, l'art classique, puis l'art romantique. Alors si je dois résumer en un mot ce que Hegel veut faire dans cette esthétique, on peut dire qu'il ne veut ni s'en tenir à une réflexion abstraite sur le concept d'art, puisque l'art existe d'abord dans des œuvres, et donc a une histoire, même si on va voir que le texte qu'on a choisi ici traite de l'art de manière, disons, plus abstraite, plus générale, mais il ne faut pas jamais oublier cette dimension historique. Mais il ne veut pas non plus faire une histoire de l'art qui serait seulement empirique, comme on dit, hein, c'est-à-dire qui s'en tiendrait seulement à des faits, et il veut penser le sens qui traverse toute l'histoire de l'art. Donc c'est ça, faire une histoire de l'art d'un point de vue philosophique.
Alors on va en passer, donc, en venir au texte tiré de l'esthétique. Le sensible est élevé dans l'art à l'état de pure apparence, par opposition à la réalité immédiate des objets naturels. L'œuvre artistique tient ainsi le milieu entre le sensible immédiat et la pensée pure. Ce n'est pas encore de la pensée pure, mais en dépit de son caractère sensible, ce n'est plus une réalité purement matérielle, comme sont les pierres, les plantes et la vie organique. Le sensible, dans l'œuvre artistique, participe de l'idée, mais à la différence des idées de la pensée pure, cet élément idéal doit en même temps se manifester extérieurement comme une chose. Cette apparence du sensible s'offre de l'extérieur à l'esprit à titre de forme, d'aspect, de sonorité, à condition qu'il laisse les objets exister en toute liberté, sans cependant essayer de pénétrer leur essence intime, ce qui les empêcherait d'avoir pour lui une existence individuelle. C'est pourquoi le sensible dans l'art ne concerne que ceux de nos sens qui sont intellectualisés, la vue et l'ouïe, à l'exclusion de l'odorat, du goût et du toucher. Car l'odorat, le goût et le toucher n'ont affaire qu'à des éléments matériels et à leur qualité immédiatement sensible, l'odorat à l'évaporation de particules matérielles dans l'air, le goût à la dissolution de particules matérielles, le toucher au froid, au chaud, au lisse, etc. Ces sens n'ont rien à faire avec les objets de l'art qui doivent se maintenir dans une réelle indépendance et ne pas se borner à offrir des relations sensibles. Ce que ces sens trouvent agréable n'est pas le beau que connaît l'art. Alors voici le texte que François, tu vas nous expliquer et aussi nous commenter, critiquer, discuter. Alors en réalité, on va ici commencer par dégager la problématique, par dégager la thèse et la structure du passage, le raisonnement de Hegel. Chose que finalement on ne peut faire qu'à la fin, une fois qu'on a véritablement compris le texte, après l'avoir lu, relu et avoir au moins travaillé dessus une quarantaine de minutes. Est-ce que François, tu peux nous dire quel est le problème ici que se pose Hegel ?
Alors, avant d'en venir au problème et à la thèse, il convient toujours de présenter le texte de manière un peu générale. Alors, si on a des connaissances sur l'auteur, c'est mieux. Si on n'en a pas, il faut s'en tenir au strict minimum. Ici, précisons qu'il s'agit d'un extrait qui vient de leçons, de cours, donnés par Hegel lorsqu'il avait sa chaire universitaire à Berlin, hein, donc dans les années 1820, hein, entre 1820 et 1829. Et en réalité, ça a une importance pour ceux qui s'intéressent un peu plus près à cet auteur, puisque ce sont des notes d'étudiants, en réalité, hein, qu'on est en train de lire. On a rarement les notes des cours de Hegel lui-même, même si ça peut arriver, mais c'est essentiellement une collection, on pourrait dire, de notes d'étudiants. Donc on ne lit pas directement un texte de Hegel, même si en réalité on peut estimer qu'ici il y a quelque chose d'assez fidèle, hein, voire même tout à fait fidèle à ce que peut penser Hegel par ailleurs. Alors, on a un texte ici hein, qui présente certaines considérations générales sur l'art, sur l'œuvre d'art, et si on est plus précis, il faut toujours être de plus en plus précis, disons dans l'introduction, hein, c'est un texte qui porte sur le statut qu'occupe la dimension sensible de l'œuvre d'art. Hein. Pour le dire autrement, quel est le rapport de l'œuvre d'art à sa dimension sensible ? Alors pourquoi, pourquoi cette question-là d'une manière générale ? Parce que il est bien sûr évident que l'œuvre d'art s'adresse à nos sens. Personne ne peut le contester. D'ailleurs, on ne verra pas n'importe quel sens. Ça fait partie du texte ici, de voir à quel sens s'adresse l'œuvre d'art. Donc c'est bien un objet sensible, l'œuvre d'art, au même titre que les autres objets sensibles, notamment les objets naturels. Il a, on peut dire, enfin, l'œuvre d'art a une matérialité, en ce sens-là. Pour autant, il n'est pas certain hein, que l'art ne participe pas également d'une autre dimension. Alors, si ce n'est pas une dimension sensible, c'est une dimension qu'on peut qualifier d'intitulée intelligible. Hein. Évidemment, là, on entend déjà Platon, qui sera présent d'ailleurs dans le texte, implicitement. Et au fond, alors, s'il faut pouvoir formuler le problème, hein, on peut dire que c'est le suivant. L'œuvre d'art se réduit-elle à sa condition d'objet sensible, ou bien dépasse-t-elle cette condition en présentant une dimension intelligible, ce que l'on peut dire également une dimension idéelle, ou idéale, hein, le terme dans le texte. Alors, une fois qu'on a posé le problème, il faut montrer quelle est la thèse qui est soutenue par l'auteur, quelle est donc la réponse à la question. Je rappelle hein, que la problématique, c'est toujours la question à laquelle répond le texte, et la thèse, la réponse. Parmi différentes réponses possibles, ici, c'est la deuxième solution, dans l'alternative qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire que, pour Hegel, l'œuvre d'art n'est pas seulement un objet sensible, même si ça l'est toujours, évidemment, ça n'est pas que cela, c'est aussi quelque chose qui participe de l'intelligible, de l'idée. Alors, on va préciser, évidemment, ces notions-là. On verra d'ailleurs hein, que cette thèse hegélienne engage radicalement, on peut dire, une certaine vision de l'art. Il y a, pour le dire en un mot, hein, il y a dans l'art un savoir, c'est-à-dire un certain contenu qui est exprimé par des moyens précis, hein, que ce soit dans l'architecture, dans la peinture, dans la musique, dans la poésie. Donc, l'art, c'est pas seulement ce qui procure un plaisir sensible, et dans ce sens-là, il s'oppose à une certaine opinion commune sur l'art, hein, qui réduirait l'œuvre a un plaisir qu'on appelle esthétique, même si évidemment c'est une condition de l'œuvre d'art que de susciter ce plaisir-là, mais il ne se réduit pas à cela, l'art ne se réduit pas à cela. Il engage l'art plus profondément un rapport au vrai, même si cette vérité, et ça on aura peut-être l'occasion de revenir dessus, cette vérité est moins connue par l'artiste ou le spectateur de l'époque à laquelle cette œuvre a été produite que par le philosophe. Donc là il y a un lien intime qui se noue entre philosophie et art. Donc cette vérité est connue peut-être davantage par le philosophe qui est capable de réfléchir, lui, sur l'histoire de l'art.
Alors du coup, peut-être un bon élément pour qu'un élève puisse commencer par s'approprier un texte et dégager ses difficultés, dégager son problème, c'est peut-être de chercher finalement quels sont les adversaires théoriques de l'auteur. Mmh. Alors ici, tu dis qu'il s'oppose quelque peu au sens commun.
Oui.
Est-ce que tu pourrais identifier éventuellement une tradition ou un auteur qui serait ici comme un adversaire théorique de Hegel ?
Alors, on va voir qu'ici, il y a bien un adversaire, il me semble. qui est un adversaire un peu ambigu, puisque c'est à la fois un adversaire et un allié, on pourrait dire. C'est, il me semble, Platon. Puisque Platon, c'est celui d'abord qui pose la différence entre sensible et intelligible, hein. On peut penser évidemment à la République, de ce point de vue-là. Et en ce sens-là, Hegel dépend tout à fait de ce vocabulaire-là, quand il parle de l'idée, du sensible. Le terme d'intelligible n'est pas présent ici, mais il est bien sûr sous-entendu. Donc, en ce sens-là, Platon, c'est plus qu'un allié d'ailleurs. Hegel en est dépendant de ce vocabulaire-là. Mais en même temps, et on va le voir assez rapidement, hein, Platon est un adversaire au sens où le statut qu'il donne à l'œuvre d'art, hein, je rappelle que chez Platon, l'œuvre d'art est dévalorisée. Je rappellerai pourquoi peut-être après. Hegel est bien sûr ici en totale opposition à cette idée-là, hein, cette dévalorisation de l'œuvre d'art. Au contraire, il y a une forte valorisation du statut de l'art chez Hegel.
D'accord. Alors, on rassure les élèves, on n'est pas obligé de connaître, ne serait-ce que l'auteur, la doctrine de l'auteur pour expliquer le texte, ni connaître, d'avoir une culture philosophique développée qu'on n'a pas le temps d'acquérir, quoi qu'il en soit, pendant l'année terminale. On peut déjà partir du sens commun. Alors, on a dégagé la problématique. Tu viens de dénoncer de manière synthétique la thèse de Hegel. Est-ce que tu pourrais désormais dégager la structure du passage ou les grands moments, les grandes articulations du texte ou encore, disons, son raisonnement logique?
Alors, effectivement, c'est la dernière étape essentielle d'une introduction. Il faut toujours préciser quelle est la structure du texte, ce qui sert d'ailleurs de preuve, hein, pour une lecture, quand on propose une certaine lecture, hein, du texte. Hein, il faut toujours prouver ça par un certain découpage, qui n'est pas forcément d'ailleurs toujours le même. Alors moi, j'ai opté pour un découpage en deux temps. Ce n'est pas le seul possible, mais il me semble que c'est l'un des plus évidents ici. Alors, ici, il ne s'agit pas de donner les lignes, puisque les auditeurs n'ont pas sous leurs yeux le texte, même s'ils l'auront peut-être sur le site. Mais on peut donner les termes ici, qui sont au début et à la fin de chaque passage. Alors, je coupe... Enfin, ma première partie va du début jusqu'à se manifester extérieurement comme une chose... Alors, dans cette partie-là, puisqu'il faut justifier, hein, pourquoi ce découpage, c'est une partie où Hegel situe l'œuvre d'art entre le sensible et l'intelligible. Il lui donne ce statut, on pourrait dire, intermédiaire entre le sensible pur, on va expliquer exactement de quoi il s'agit, et l'idée, l'intelligible. Donc ça, il me semble que ça donne une unité à cette première partie. La deuxième partie, donc, va de cette apparence du sensible jusqu'à la fin du texte, où, ici, Hegel tire une conséquence du statut qu'il vient de donner à l'œuvre artistique. Alors, conséquence quant aux sens, les cinq sens, hein, qui sont impliqués dans la relation esthétique, en relation à l'œuvre d'art, et d'ailleurs également une des conséquences quant aux sens qui ne le sont pas. D'ailleurs, il s'arrête longtemps sur certaines considérations concernant les sens qui ne sont pas impliqués justement par le rapport à l'art. Il me semble que c'est pour ça qu'on a découpé le texte ainsi, qu'on a choisi ce texte-là dans les leçons d'esthétique. Il me semble que ces considérations sont très intéressantes d'ailleurs dans ce que ça nous dit du rapport des sens non seulement à l'art, mais aussi au savoir, d'ailleurs.
D'accord, donc on va marquer à présent une pause musicale et on reviendra à proprement parler sur l'explication linéaire de ce texte de Hegel après l'écoute d'un morceau de Niccolo Paganini, violoniste virtuose contemporain de Hegel, très apprécié par Hegel, et on écoute le morceau Caprice pour violon numéro 24.
Que Hegel a même entendu, hein, en concert à Berlin.
À tout de suite. Donc vous êtes toujours sur BAC FM 106.1 avec François et Clément et on s'apprête à expliquer le début du texte de Hegel tiré de l'esthétique. Alors pour que l'auditeur puisse avoir un petit peu présent davantage à l'esprit ce texte qu'il n'a entendu pour l'instant qu'une fois, je relis le début du texte. Hegel écrit « Le sensible est élevé dans l'art à l'état de pure apparence par opposition à la réalité immédiate des objets naturels. L'œuvre artistique tient ainsi le milieu entre le sensible immédiat et la pensée pure. » Est-ce que déjà, François, tu peux nous expliquer la signification, le sens de ce premier passage ? Alors c'est d'abord un travail assez modeste, c'est-à-dire il s'agit d'expliciter, d'essayer de faire comprendre, de dire l'essentiel de ce que l'auteur a voulu dire, en étant attentif aussi à la lettre du texte, aux termes choisis par l'auteur.
Oui, exactement comme tu dis, il faut déjà partir des termes mêmes. Le travail du commentaire au bac, notamment, c'est toujours de définir les termes qui ne le sont pas forcément dans le texte lui-même. Donc c'est d'apporter, on pourrait dire, ce plus par rapport au texte, qui est d'expliciter les termes. Alors ici, il y a un terme de la première phrase que tu as relu, qui me semble très intéressant, c'est le terme d'apparence. Il parle de pure apparence ici. Donc le sensible est élevé dans l'art à l'état de pure apparence. Alors, il y a énormément de choses déjà à dire là-dessus. Et surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut éviter un contresens. Je pense que c'est le grand danger de ce texte ici, ce serait de commettre d'emblée un paradoxe, un contresens, pardon, avec cette idée que l'apparence, en règle générale, dans l'opinion commune, elle est dévalorisée. L'apparence, c'est ce qui renvoie à la superficialité, à la surface. Avec cette idée classique que les apparences sont trompeuses. Et au fond, je parlais de Platon tout à l'heure, quand tu me demandais quel était l'ennemi caché, l'adversaire caché du texte, eh bien, on le trouve déjà ici. Puisque celui qui, justement, condamne l'art parce qu'elle relève de l'apparence, c'est bien Platon. Il y a un passage célèbre dans La République où Platon parle des trois lits. Le lit idéal, la forme du lit, c'est-à-dire le lit universel, on pourrait dire, qui est purement intelligible, qui n'existe que dans la pensée. Idée dont se sert l'artisan pour produire un lit réel, qu'il se fixe, on pourrait dire, sur cette idée-là, sur cette forme. Et puis, il y a un troisième lit, qui est le lit peint par le peintre. On pourrait aussi dire le lit qui est décrit par le poète, le lit, peu importe, qui est encore moins vrai que le lit sensible, que le lit réel, puisqu'il n'en est qu'une pâle apparence, une pâle imitation.
Alors, Hegel ici qualifie cette apparence, il dit que c'est une pure apparence. Est-ce que tu peux préciser pourquoi est-ce qu'il précise cela ?
Eh bien, justement, parce que ça s'oppose à la suite du texte ici, à la suite de la phrase. Il oppose ici cette pure apparence à ce qu'il appelle la réalité immédiate. Alors, on va expliquer cela. Qu'est-ce qu'il veut entendre par réalité immédiate ? Eh bien, il veut entendre, on pourrait dire, la chair des choses. Je ne sais pas si c'est clair de le dire ainsi, mais la réalité intérieure, l'intériorité des choses. Les objets naturels, les objets sensibles ont tous une intériorité. Ils sont constitués d'une matière.
Ce qu'il appellera donc un peu plus bas dans le texte son essence intime.
Voilà, exactement. Plus tard, il y aura le terme d'essence, qu'il ne faut pas prendre dans un sens technique, métaphysique ici, sens qu'on trouve chez Hegel par ailleurs, mais ici au sens simplement de l'essence, au sens où on parle de l'essence de la matière, l'essence d'un bois, etc.
En précisant donc aussi que si on fait une explication linéaire du texte, il n'est bien évidemment pas exclu d'aller chercher un élément plus bas dans le texte, si c'est pour justement montrer la cohérence du...
Tout à fait, il ne faut jamais avoir une lecture trop myope du texte en s'arrêtant à chaque phrase. Ça, c'est les commentaires un peu laborieux qui font cela, qui s'arrêtent à chaque phrase. Au contraire, si on peut établir des liens au sein du texte, ça montre qu'on le domine, qu'on le maîtrise. C'est toujours ce qu'il faut faire. Alors, effectivement, donc pure apparence s'oppose ici à la réalité immédiate. Alors, pourquoi immédiate ? C'est un terme ici qu'il faut bien analyser aussi. Réalité immédiate, ça veut dire... réalité telle qu'on peut la connaître en la touchant, pourquoi pas en la goûtant, dans le cas de choses comestibles, de nourriture, peut-être aussi, on reverra, en la sentant, parce qu'après tout, le parfum de quelque chose, c'est aussi la dissolution de cette chose. On dit qu'il y a une émanation, c'est que l'intériorité de cette chose se dissout dans l'air, quelque part. Bon. Donc, quand on accède à la réalité immédiate de quelque chose, on peut dire qu'on y accède intérieurement. Alors que la pure apparence, au contraire, c'est toujours ce qui existe dans une certaine distance. Il y a apparence pour quelqu'un. ça apparaît à quelqu'un. Alors ici, on touche du doigt déjà une thèse importante à l'égard de la notion d'œuvre d'art, c'est que l'œuvre d'art, elle suppose toujours une distance. Je vais prendre un exemple simple. Dans le cas d'une peinture, par exemple, ce qui nous intéresse, c'est pas sa réalité immédiate. Ça voudrait dire aller toucher la peinture, enlever les couches de peinture pour voir comment elles ont été recouvertes, etc. Bon, évidemment, c'est pas ça, apprécier une œuvre picturale, c'est déjà prendre une certaine distance à son égard, la contempler. Évidemment, on sait bien qu'une œuvre d'art, une peinture, vue de trop près, elle n'a aucun sens. Il faut toujours prendre une certaine distance. Il y a une juste distance à avoir vis-à-vis de l'œuvre. Et c'est ça que ça veut dire ici, en fait. Alors, il en va de même, d'ailleurs, de l'œuvre musicale, puisque le son, il revient par la suite du texte, le son existe dans une certaine distance. Hegel insiste dessus. Ce qui nous intéresse dans la musique, dans le son produit par un instrument, par exemple, ou par la voix, c'est qu'elle se diffuse dans l'espace. Donc il y a bien un milieu entre nous, entre le spectateur, l'auditeur et l'œuvre. Donc c'est à ça qu'on voit la pure apparence, c'est l'idée de surface, mais au fond, c'est pas pris péjorativement ici, cette idée de surface. Ce qui nous intéresse dans la peinture, dans la musique, c'est bien une surface, c'est bien la surface de la peinture elle-même, et pas son intériorité purement matérielle, qui là, pour le coup, renvoie à son caractère purement sensible et matériel, mais n'est pas d'un grand intérêt.
Puisqu'effectivement, au début du texte, il dit « le sensible est élevé dans l'art à l'état de pure apparence ». Dans la phrase qu'il suit, il précise que l'œuvre artistique, l'œuvre d'art, tient ainsi le milieu entre le sensible immédiat et la pensée pure. Donc en somme, le sensible est élevé vers la pensée pure, si je comprends bien. Et du coup, il faut voir dans cette élévation quelque chose comme un jugement de valeur.
Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que cette notion de pure apparence permet à l'œuvre d'art de se détacher de sa simple matérialité. Bien sûr que la peinture, c'est un ensemble de couches, de couleurs, etc. C'est de la matière très précise. Mais ça n'est pas que cela. Et le fait que ce qui nous intéresse dans l'œuvre d'art, c'est l'apparence, ça permet déjà de détacher l'œuvre d'art de cette matérialité. Alors, c'est ce que justement indique cette phrase que tu viens de relire ici. Elle tient au milieu, c'est-à-dire qu'elle n'est plus un sensible immédiat. En tout cas, elle ne nous intéresse plus comme sensible immédiat. Mais ce n'est pas encore, comme le dit la suite du texte d'ailleurs, de la pensée pure. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par pensée pure ici? Ça engage quelque chose d'assez compliqué chez Hegel. On va pas non plus rentrer dans le détail ici, puisque je rappelle d'ailleurs que commenter un texte au bac ne suppose pas une connaissance précise de l'auteur, et avoir une connaissance précise de Hegel n'est pas forcément possible en terminale. Mais on peut dire déjà ceci, c'est que la pensée pure, c'est ce qui peut appeler par ailleurs le concept ou l'idée, et qui est l'objet de la philosophie. C'est la philosophie qui s'intéresse, ou qui a pour objet la pensée pure, et pas l'art, par exemple. L'art a toujours affaire à des objets sensibles. Mais, en même temps, il faut rajouter que l'œuvre d'art a bien un rapport avec cette pensée pure. Plus tard, le texte dira qu'il participe de cette pensée pure, de l'idée. Donc, il y a quelque chose de l'idée qui transparaît, on pourrait dire. On retrouve ce terme d'apparence qui transparaît dans l'œuvre elle-même, dans sa matérialité.
Alors, même si un élève, effectivement, comme tu le rappelles, n'est pas censé connaître Hegel, qui est un auteur quand même difficile d'accès, il peut quand même, à partir de son expérience minimale de l'art, voir de quoi il est question lorsqu'on écoute une œuvre musicale, lorsqu'on contemple un tableau. On perçoit bien qu'il y a quelque chose à comprendre, qu'il y a un sens, qu'il y a une signification, qu'il y a quelque chose d'intelligible. Donc cette pensée pure, ça renvoie à ce sens.
Exactement.
On a du mal à formuler de manière claire, en pensée, en mots, mais qu'on pressent, qu'on touche, ça n'irait pas, qui s'offre à la sensibilité, mais qui ne peut pas se formuler en mots, c'est ça?
Oui, c'est exactement ça. On peut l'appeler également le sens. Je trouve que le terme ici est bien choisi. Hein. Effectivement, quand on dit que l'œuvre a un sens, c'est exactement ce que veut dire Hegel ici. Et c'est ce que, d'ailleurs, je te rappelais dans l'introduction, hein, l'œuvre d'art pour Hegel a un rapport à la vérité. Donc là, c'est effectivement quelque chose qui a pu être contesté. Est-ce que l'œuvre d'art a pour fonction de nous dire quelque chose de vrai? Pour Hegel, c'est quelque chose de fondamental, absolument fondamental. Donc, en ce sens-là, oui, on peut très bien dire que la pensée pure, c'est le sens. Et le sens, c'est ce qui doit être compris de manière intelligible.
Et est-ce qu'en faisant un petit jeu de mots, en se référant à l'étymologie, pour accéder au sens, à la signification, il faut toujours d'abord en passer par quelque chose qui soit sensible? Il faut d'abord que ça passe par les sens.
Alors, absolument. C'est une autre thèse très importante de Hegel sur l'art, qui n'est pas l'objet précis du texte, mais qui est impliquée ici. C'est que le sens, on pourrait dire ce qui est fait l'objet de la pensée, doit d'abord s'incarner dans des objets matériels. Et donc, il était nécessaire que, et non pas contingent, il était nécessaire que les hommes, ce qu'il appelle l'esprit, on ne va pas rentrer dans ce détail, mais que les hommes, on peut dire, que l'histoire humaine passe par la production d'œuvres d'art. D'ailleurs, pas seulement la production d'œuvres d'art, hein, il y a d'autres types d'objets, on pourrait dire, par exemple la religion, hein, les croyances religieuses, qui sont également nécessaires pour Hegel, mais l'œuvre d'art a bien ce statut de nécessité. Les hommes, finalement, cherchent à atteindre la vérité par le moyen de l'art, notamment. Donc, effectivement, il y a bien en ce sens-là ce rapport à la vérité dans l'œuvre d'art.
D'accord. Alors, il nous dit que l'art, que l'œuvre d'art tient le milieu entre le sensible immédiat et la pensée pure. En somme, alors, on a l'impression que d'une certaine manière, il l'élève, la réalité artistique, l'œuvre artistique au-dessus de la nature, qui ici serait quelque peu dépréciée. Pour autant, il dit que l'œuvre d'art n'est pas encore de la pensée pure. Est-ce que du coup, chez Hegel, on a une forme de, en même temps qu'on élève l'art, de déconsidération de l'art, en ce sens que finalement elle est limitée, elle ne nous donne pas accès, comme le ferait la philosophie, comme le ferait le concept plus désincarné, plus immatériel, moins sensible à la vérité?
Alors, je n'irai pas jusqu'à employer le terme de déconsidération, puisque c'est le premier philosophe à donner ce statut à l'œuvre d'art. Donc, s'il y a bien un philosophe qui a valorisé l'art, c'est Hegel. Mais, ce qui est vrai en même temps, c'est que l'œuvre d'art n'est pas le moyen le plus adéquat de penser la vérité. Le moyen le plus adéquat, on peut le dire d'emblée, hein, c'est la philosophie pour Hegel. C'est dans l'histoire de la philosophie que la vérité a été approchée de manière adéquate. Et, à la fin, dans la philosophie de Hegel lui-même, dans le fond, hein, toute l'histoire tendait vers cette philosophie-là. Toute l'histoire de la philosophie tend vers l'histoire de la philosophie telle que Hegel, ce qui n'a rien d'ailleurs d'égocentrique, hein, pas du tout. Hein. Hegel compense cela par beaucoup de formules modestes en disant qu'il n'est que le secrétaire de l'esprit, etc. Mais il y a une nécessité historique qui doit aboutir au système tel que Hegel l'a proposé.
Alors est-ce que tu pourrais en deux mots, enfin de la manière la plus synthétique possible, nous présenter quelques étapes qui montrent justement ce passage, cette incarnation progressive, je sais pas si on peut dire ça, cette épiphanie de la vérité dans l'art qui se réalise au cours de l'histoire?
Alors, si on regarde l'histoire de l'art elle-même, si je comprends bien ta question, effectivement, on peut distinguer plusieurs grandes étapes. Alors, on distingue essentiellement trois grandes formes, hein, d'art, je les ai mentionnées tout à l'heure d'ailleurs, hein, l'art symbolique. Alors, l'art symbolique, ça renvoie essentiellement à l'art oriental notamment, hein. Qui est le premier dépassement, disons, de l'homme par rapport à la nature. L'homme conquiert, on commence à conquérir, disons, sa propre liberté par rapport à la nature dans cet art symbolique. Cet art symbolique, c'est par exemple la pyramide égyptienne, mais en réalité, c'est beaucoup d'autres formes, hein, beaucoup d'autres figures. La deuxième grande étape, peut-être la plus importante pour Hegel, hein, celle qui a le plus de prix à ses yeux, c'est ce qu'il appelle l'art classique. Hein, la période classique, enfin, pas la période, mais l'art classique, ça correspond essentiellement à l'art grec, en réalité. Et il y a une thèse assez intéressante de Hegel, qui, là, pour le coup, n'est pas propre à Hegel. Il partage l'opinion du romantisme allemand et de l'idéalisme allemand de l'époque, avec l'idéalisme auquel il appartient, d'ailleurs, hein, qui est que l'art grec est un sommet. Et qu'au fond, si on regarde l'art en lui-même, l'art qui viendra après l'art grec représente une forme de décadence d'un certain point de vue. L'art atteint sa perfection avec l'art grec, notamment la sculpture. La sculpture grecque, hein, c'est l'expression même d'une liberté de l'homme, hein, c'est l'homme qui est représenté, liberté intérieure, mais qui reste encore enfermée en elle-même quand même. Il y a quelque chose d'impénétrable dans cette liberté malgré tout. Et puis il y a l'art romantique, qui est à la fois l'art médiéval et l'art moderne, hein, qui, pour le coup, exprime de manière beaucoup plus évidente la liberté des sujets, hein, la liberté des individus. Et l'un de ses grands modèles, c'est la peinture flamande, par exemple, hein, celle de Rembrandt, de Vermeer, etc.
D'accord. Alors, avant de marquer une deuxième pause musicale, une question qui fait référence souvent à ce que les élèves expriment, ce que les élèves ont tendance à dire lorsqu'ils ont à disserter sur l'art ou à expliquer un texte sur l'art, qui consiste à dire que finalement l'art aurait pour fonction d'exprimer un message, de véhiculer, d'être le véhicule d'un message, sans préciser exactement de quel message il s'agit. Qu'est-ce que Hegel aurait à répondre à cette idée, un philosophe qui dirait, à un élève qui dirait, le but de l'art, la fonction de l'art, c'est d'exprimer un message?
Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez étranger pour Hegel. C'est pas quelque chose qu'il exprime du tout. Ce que Hegel aurait à répondre, il me semble, de manière assez évidente à cette réflexion-là, c'est que ce qui intéresse le philosophe de l'art ici, ce qui nous intéresse en tant que philosophe, c'est pas, donc on s'intéresse à la signification de l'art, c'est pas tant le sens que l'artiste a voulu exprimer, qui quelque part est assez contingent par certains aspects, ce que l'œuvre d'art révèle d'elle-même de son époque. De quelle manière est-ce qu'elle reflète la vérité? Donc, il peut y avoir un art, soit dit, quelque chose qui n'est pas tellement connu jusqu'au début du XIXe siècle, un art critique, on pourrait dire social, politique, bon, quelque chose qui se développera plutôt par la suite. Mais Hegel aurait à répondre à cela par avance que ce n'est pas ça, c'est pas tant ce message-là qui importe, parce qu'après tout, l'artiste peut bien s'illusionner sur ce qu'il fait aussi, bien se tromper sur ce qu'il fait, en tout cas ne pas voir quelle est la vérité qui l'exprime réellement dans son œuvre. Donc au fond, c'est là que, d'ailleurs ça rejoint ta question de tout à l'heure, on voit que la philosophie a malgré tout une certaine supériorité par rapport à l'art, parce que la philosophie c'est ce qui comprend mieux l'art que l'art lui-même. Alors bien sûr, on peut contester cette idée-là, parce que le philosophe comprend mieux l'art que l'artiste lui-même, l'œuvre de l'artiste que l'artiste lui-même, mais c'est une thèse hegelienne.
Alors pour le coup, on aurait un avis sans doute partial, donc on ne va pas aller plus loin dans cette discussion. Donc on écoute un morceau clin d'œil aussi à Hegel ou à son époque, un morceau de Chuck Berry, donc qui s'appelle Roll Over Beethoven, repris par le groupe Hello. We'll be right back. nous sommes de retour sur Bac FM 106.1 pour terminer l'explication du texte de Hegel, tiré de l'esthétique. Alors on va passer à la deuxième et dernière partie que tu as dégagée précédemment dans l'introduction. Voilà ce que dit Hegel au début de cette deuxième partie. Cette apparence du sensible s'offre de l'extérieur à l'esprit à titre de forme, d'aspect, de sonorité, à condition qu'il laisse les objets exister en toute liberté sans cependant essayer de pénétrer leur essence intime, ce qui les empêcherait d'avoir pour lui une existence individuelle. Et il poursuit, c'est pourquoi le sensible dans l'art ne concerne que ceux de nos sens qui sont intellectualisés, à savoir donc la vue et l'ouïe, à l'exclusion de l'odorat, du goût et du toucher. Bon, alors tu avais parlé précédemment de cette distance nécessaire à la contemplation d'une œuvre d'art. Avant d'en venir donc à ces sens intellectualisés qui sont ici centraux, dans ce passage, je reviens au début du passage que je viens de lire, où finalement il y a quelque chose comme une référence de Hegel à Kant. Pour qu'on puisse avoir une expérience esthétique, il faut qu'on ait un rapport désintéressé à l'œuvre d'art, qu'il n'y ait pas de consommation ou de désir possible de l'objet sensible.
Alors, tu as tout à fait raison à me parler d'une référence à Kant qui est absolument manifeste à la toute fin du texte lorsqu'il différencie l'agréable du beau. Là, évidemment, on ne peut pas faire comme si ce n'était pas une référence à la troisième critique de Kant, à la critique de la faculté de juger, qui précisément distingue l'agréable du beau. Bon, on reviendra à cette distinction après. Donc, effectivement, Kant est tout à fait présent dans l'esprit de Hegel ici. Alors, effectivement, il y a cette idée, d'ailleurs chez Kant on a ça aussi, hein, que certains sens n'ont affaire aux réalités sensibles, aux réalités matérielles, que on pourrait dire en les consommant, hein, d'une certaine manière, c'est-à-dire en supprimant leur intériorité.
Alors, donc c'est ce que Hegel dit dans une parenthèse, ce qui les empêcherait d'avoir pour lui une existence individuelle.
Exactement. C'est-à-dire que, il me semble que le meilleur exemple de cela, c'est lorsque c'est le sens du goût, hein. C'est-à-dire que lorsque le sens gustatif, lorsqu'on apprécie un plat, etc., une nourriture, ce sens-là suppose la suppression de la chose. C'est quelque chose d'assez évident. On pourrait dire presque qu'il y a une sorte de composition de notre corps avec la chose. C'est ça qui produit ce sentiment de plaisir lié à l'agréable, notamment chez Kant. Chez Kant, on a bien sûr l'exemple du vin des Canaries, dans un passage célèbre de la troisième critique. Bon, disons qu'on ne laisse pas l'objet intact lorsqu'on le sent, dans ce cas-là. Alors c'est vrai, je le disais tout à l'heure, c'est vrai aussi du parfum, de l'odeur, de l'odorat, puisque c'est ce qu'il dit par la suite d'ailleurs. Hein.
Oui, Hegel insiste bien sur le côté matériel. Hein, il dit donc des éléments matériels et leur qualité immédiatement sensible. L'odorat à l'évaporation, l'évaporation de particules matérielles dans l'air. Le goût à la dissolution de particules matérielles.
Alors d'ailleurs, il est un peu plus rapide sur le toucher, puisque le toucher préserve davantage la chose. On est davantage à la surface. Cela dit, on est à la surface, mais de manière immédiate. Il n'y a pas la distance dont on parlait tout à l'heure. Hein, c'est ça la grande différence entre le toucher et la vue. Le point commun, c'est qu'effectivement la chose est préservée dans son autonomie, dans son individualité, c'est-à-dire on ne dissout pas la chose, mais on n'a aucune distance vis-à-vis d'elle, donc on a accès à la matière de manière immédiate également. Donc ça, c'est le point commun entre ces trois sens qu'on peut dire non intellectualisés, non théoriques, que sont l'odorat, le goût et le toucher.
Alors du coup, est-ce à dire, puisqu'on est dans une explication au commentaire de texte, on s'est davantage concentré sur l'aspect explicatif, on peut aussi donc aborder l'aspect discussion, critique, qui permet d'ailleurs de mieux faire ressortir, c'est ça l'objectif d'une critique, hein, de mieux faire ressortir le sens, la thèse de l'auteur. Est-ce à dire que du coup il ne peut y avoir d'art, c'est ça qu'il faut comprendre il me semble, que visuel et auditif.
Oui.
Et donc certains sens seraient exclu de tout rapport à une dimension artistique, il n'y aurait pas d'art olfactif, gustatif ou tactile.
Alors c'est absolument la thèse que défend Hegel ici, la thèse d'ailleurs qui est implicite chez Kant également dans le texte auquel on a fait référence. Effectivement, et c'est lié à la thèse qu'on a évoquée tout à l'heure, que dans l'art il y a un savoir. Or le savoir ne passe que par deux sens, ça c'est quelque chose de très classique qu'on retrouve chez Aristote. Il y a des sens qui sont théoriques. Le traducteur a choisi plutôt intellectualiser ici. Ce sont la vue et l'ouïe. D'ailleurs, dans théorique, théoria, il y a observation. Hein. Donc le théorique est lié à la vue. On sait que en grec, hein, la racine qui veut dire savoir, oida, hein, c'est lié aussi à wideo en latin, hein, voir. Donc il y a cette famille de mots entre voir et savoir. Donc la vue, c'est évident, et l'ouïe également, puisqu'on apprend par l'ouïe également, on apprend en entendant. C'est davantage un savoir à la deuxième personne, alors que la vue, c'est un savoir à la première personne, je peux constater, mais ce sont les deux sens qui s'occupent de la connaissance, hein, qui sont liés à la connaissance, qui sont pas seulement liés à la connaissance, mais qui sont évidemment impliqués dans la connaissance.
Alors j'adopte justement j'essaie d'adopter une position critique. Finalement, pour qu'il y ait contemplation, pour qu'il y ait une expérience artistique, pardon, il ne faut pas qu'il y ait consommation, c'est ça, destruction de l'existence individuelle, et donc il ne faut pas que nos narines viennent dissoudre les particules matérielles. Et par conséquent, on ne pourrait pas dire que sentir un parfum artificiel serait une expérience artistique.
Non.
Or, un parfum, apparemment, sentir un parfum, c'est agréable. Donc, on retrouve ici distinction entre l'agréable et le beau. Pour autant, au-delà de cet aspect agréable, est-ce que ça ne suscite pas en nous aussi un sentiment? Et un sentiment, c'est pas seulement une sensation qui renvoie au côté matériel et physique de la chose, c'est aussi de l'intelligible, du sens incarné dans une sensation. Et par conséquent, est-ce que sentir un parfum, ce n'est pas aussi faire une expérience artistique, en ce sens que ça nous donnerait quelque chose à connaître, à comprendre, tout du moins?
Alors, si on répond du point de vue de Hegel, parce qu'il faut toujours quand même, tu as tout à fait raison d'insister sur l'aspect de discussion en un commentaire, mais il faut toujours d'abord donner raison au texte lui-même. Il ne s'agit jamais de le prendre de haut. Si on peut discuter un texte, il ne s'agit jamais de le critiquer au sens où l'auteur n'aurait dit que des bêtises. Bon, évidemment, quand on est face à Hegel, il faut beaucoup de modestie. Mais évidemment, bien sûr qu'on peut discuter. La première chose à remarquer, c'est que, et ça c'est Kant qui le remarque, hein, on ne dit pas d'un parfum qu'il est beau. On dit d'un parfum qu'il est agréable, qu'il sent bon. Hein. De même, d'un plat, on dit qu'il est bon. On ne dit pas qu'il est beau. Ou alors, on parle de son aspect visuel. Hein. Mais dans ce cas-là, on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas du goût. Bon, et de même, de quelque chose qui a une texture agréable, on ne dit pas que cette texture est belle. Hein. Ça n'aurait pas de sens. Donc déjà, ne serait-ce que dans le langage, on fait cette distinction-là. Hein. On fait cette distinction entre le beau et l'agréable. Et si l'art relève du beau, ce que Hegel, point sur lequel Hegel insiste beaucoup, hein, le beau est nécessaire pour qu'on puisse parler d'art, on ne va pas rentrer dans le détail ici, on peut le dire en un mot, le beau c'est le signe du vrai, hein, pour Hegel. Ce qui est beau, c'est ce qui est effectif dans la réalité, donc ce qui est vrai. En ce sens-là, si l'art relève du beau, alors il n'y a d'art que visuel et auditif. Hein. Là, si on est conséquent, c'est ce qu'il faut dire. Alors, après, est-ce qu'on peut discuter cette idée-là? Si on va jusqu'au bout en suivant Hegel, il faut quand même voir une chose, c'est que l'art représente un dépassement de la nature. Hein. C'est ce que dit le texte, dans le fond. Hein. C'est un dépassement de la nature. L'homme parvient par sa liberté, hein, qui n'appartient qu'à lui, à dépasser la nature. Et il dépasse la nature en donnant du sens, hein, une signification qu'il peut par ailleurs penser conceptuellement. Bon. Est-ce qu'il y a du sens dans le parfum lui-même? Pour Hegel, non. Pour Hegel, non, il n'y a du sens que dans ce qui est produit dans une figure visuelle. Hein, là, on peut penser à la peinture, à la sculpture, dans l'architecture aussi d'ailleurs, dans la musique, qui est surtout pour Hegel d'ailleurs une musique chantée. Alors on pourrait poser, là ça serait un bon point de discussion il me semble, mm-hmm. qui a été souvent soulevé par certains interprètes, hein, qui est la question de la musique purement instrumentale, hein, qui semble en grande partie échapper à Hegel d'ailleurs. Hein. Alors ça c'est un bon point de discussion, puisqu'on est quand même à l'époque de la musique, le grand développement de la musique instrumentale, c'est l'époque de Hegel, hein, on peut penser bien sûr à Beethoven, bon. Notamment, Et ça, c'est une dimension qui, dont Hegel ne fait pas beaucoup de cas dans son esthétique. Pour lui, l'œuvre musicale, c'est une œuvre qui s'approche de la poésie, en fait. Hein. C'est une œuvre chantée, que ce soit une œuvre religieuse ou non, hein, profane. Donc, sans doute, ce que Hegel répondra à cela, c'est que même si on crée des parfums, au fond, on en reste à un niveau naturel. Mmh. Au fond, on essaye d'imiter la nature. Bon. Celui qui invente des parfums, au fond, il essaye de faire la même chose que la nature. Bon, il synthétise ce qui est purement naturel. Et donc, il ne s'élève pas à quelque chose de spirituel. Hein. Il y a la grande opposition entre esprit et nature. Il n'y a pas d'opposition dans la création de parfums entre le spirituel et le naturel. On reste au niveau du naturel.
Donc, à celui qui voudrait dire que un joueur de flûte, par exemple, essaierait d'imiter le chant d'un oiseau, de la même manière que un producteur de parfums, un artiste parfumeur, essaierait de reproduire une fragrance particulière, Hegel lui répondrait qu'en réalité, si on trouve que le chant d'oiseau est beau, c'est d'abord parce que ça nous fait penser à une œuvre musicale et ça nous fait penser à quelque chose de spirituel.
Alors, c'est parce que je ne pense pas qu'il ne répondrait ça, qu'il dirait des choses ainsi, mais ce qu'il faut dire déjà, c'est que l'art n'a absolument pas pour fonction d'imiter la nature. Bien sûr que l'artiste s'inspire des objets naturels, on le voit bien dans une nature morte, c'est le cas le plus évident, mais il y a dans la nature morte, par exemple, ce qu'on peut appeler une idéalisation de cette nature. Il y a quelque chose de spirituel qui transparaît dans la nature morte. Hegel analyse beaucoup hein, certaines natures mortes, la lumière, hein, le jeu de lumière, etc., qui dépasse la simple vue d'objets quotidiens. Mais celui qui prétend que l'art sert d'abord à imiter la nature, idée qu'on retrouve chez Platon, bien sûr, hein, nous sommes mimésis, d'une certaine mesure, bien sûr, avec Aristote également, hein, dans sa poétique, cette idée-là, pour Hegel, n'a pas de sens, puisque la nature fait mieux que l'homme, produit mieux que l'homme ses objets naturels. Donc il dit, il se moque hein, de cette idée-là, il dit, au fond, c'est le ver qui veut se faire éléphant. Ça n'a aucun sens de vouloir imiter la nature, c'est-à-dire de se mettre au même statut. L'essence de l'homme, c'est de dépasser la nature. Et donc, on peut bien s'inspirer de la nature, mais toujours pour la dépasser. Et là, dans ce cas-là, l'art est effectivement bien supérieur à la nature. Et il n'y a pas de commune mesure entre l'œuvre d'art et ce qu'on pourrait trouver beau dans la nature. Alors, bien sûr, on peut trouver des choses belles dans la nature, hein, tu parlais du chant de l'oiseau, mais ça sera toujours une beauté inférieure et qui n'a pas de signification particulière par rapport à la beauté de l'œuvre d'art qui, elle, renvoie au vrai.
Donc on arrive au terme de notre émission, au moment de conclure notre explication commentaire de texte. Alors, qu'est-ce que tu suggères aux élèves en conclusion? Est-ce qu'il s'agit de dire quelque chose de plus? Est-ce qu'il s'agit de faire apparaître de manière synthétique la cohérence du passage, donc de reprendre le problème et de dire la thèse de l'auteur de manière synthétique?
Alors, moi, je serais assez partisan d'opter pour cette solution-là, puisqu'on en trouve beaucoup trop de commentaires qui, je disais, ont été myopes hein, tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire, on suivit le texte de trop près sans en voir la pensée générale.
Découpé.
Exactement.
Ouais.
Donc, éventuellement, la conclusion, même si on peut juger que ça vient un peu tard, mais à la rigueur, pourquoi pas, mieux vaut tard que jamais, ça peut être le moment d'essayer de ressaisir l'unité du texte entier. Donc ça, pourquoi pas. Mais même si il aurait fallu ne pas perdre de vue cette unité tout au long du commentaire, ça c'est les meilleurs commentaires qui arrivent à faire cela. Donc pourquoi pas profiter du moment de la conclusion pour faire cela. Je déconseille, c'est vrai pour les dissertations aussi d'ailleurs, les ouvertures qui tendent à traiter d'un tout autre sujet que le sujet du texte ou du sujet de dissertation. Donc alors, pourquoi pas dans ce cas-là, là pour le coup, pourquoi pas une certaine discussion? Ça, c'est toujours possible, on peut toujours en conclusion discuter la thèse de Hegel, sans faisant référence, par exemple, à l'art contemporain, qui essaye, qui est revenu sur cette idée que l'art devrait être nécessairement lié à un savoir, à quelque chose de théorique. Alors, inversement, on a aussi dans l'art contemporain l'art conceptuel, alors là, où ça donne complètement raison à Hegel. Bon. Mais inversement, il peut y avoir des tentatives d'art qui passent par le toucher, par exemple. Hein. Bon. Alors, est-ce que c'est encore de l'art ou pas? La question reste posée. Hein. Si on a les critères hegeliens, non. Mmh. Mais on peut peut-être défendre l'inverse. On peut faire référence à sa propre culture littéraire. Hein. Il ne faut pas oublier les années d'études du français auparavant. On faut bien sûr aussi penser. Moi, c'est ce qui m'a, c'est le texte auquel j'ai pensé tout au long de cette, tout au long de la lecture du, de cet extrait. C'est le poème Correspondance de Baudelaire, hein, où pour le coup, il y a cette espèce d'analogie entre les sens, hein, dans le poème des Fleurs du Mal. Il est des parfums frais comme des chars d'enfants, etc. Vert comme le hautbois. Bon, c'est-à-dire que les sens se renvoient tous les uns aux autres. Et en ce sens-là, effectivement, on n'exclut pas les trois autres sens. Il y a pas, chez Baudelaire, on n'exclut pas les autres sens. Ils se renvoient mutuellement. Cela dit, Baudelaire donne aussi raison à Hegel, puisque cette analogie des sens renvoie à une vérité idéale. Et c'est ça aussi le sens des correspondances.
Eh ben merci beaucoup François pour toutes ces explications. Donc l'explication commentaire de ce passage de l'esthétique de Hegel est désormais terminée. Alors bien qu'il reste, comme tu viens de l'indiquer, encore beaucoup de choses à penser et à discuter, c'est le moment de remettre notre copie. Merci beaucoup pour votre écoute. Donc on se retrouve pour une nouvelle émission consacrée à la préparation du bac de philosophie. Et cette fois-ci, donc, ce sera la dissertation qui sera à l'honneur. Merci pour votre écoute et bonne journée sur Bac FM 106.1.
Merci Clément.